bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et ce matin, je suis avec Patrice Van Hersel, qui vient nous parler d'un livre qu'il vient de publier, La Non-Sphère, qui vient de sortir chez Albin Michel. Patrice était déjà venu nous parler d'un livre qu'il avait fait, qui est formidable, qui était une somme assez importante sur l'histoire de la revue actuelle. Et il est aussi connu, il a servi de go-between avec les États-Unis sur une expérience sur l'aide aux mourants. C'était quelque chose qui a eu un fort impact. Il avait rencontré une dame là-bas qui était infirmière et qui avait
psychiatre
qui avait enregistré des phénomènes bizarres sur des gens qui subissaient un traumatisme, qui étaient quasiment morts et qui revenaient parmi nous et qui avaient vu un tunnel de beauté tel que celui représenté par Jérôme Bosch avec des anges dedans, une lumière, et qui revenait de façon totalement pacifiée. Donc Patrice travaillait sur l'aide à la mort, comment mourir, comment devenir serein avant la mort. Et maintenant, dans son livre « La Non-Sphère », il transfère ceci au vivant, puisqu'il va nous apprendre à danser l'apocalypso, puisqu'on est au bord de l'apocalypse. Maintenant, on est obligé de se calmer un petit peu, de respirer profondément, d'affronter ces espèces de phénomènes en face de nous totalement terrifiants qui se multiplient dans tous les sens. Cette nouvelle peste noire et puis tous ces phénomènes climatiques, enfin bref, nous sommes à la fin du monde. Et la Non-Sphère est une espèce de rapport à cette fin du monde. Alors le pitch tel que je l'ai retenu très rapidement du livre... Le narrateur, qui est visiblement aussi l'auteur du livre, se rend quelque part et il y a un jeune homme qui est là, qui est très agité et qui refuse d'aller travailler. Et sa mère lui fait une scène parce qu'il refuse d'aller travailler, mais il ne veut plus rien faire parce qu'on assiste à la fin du monde et rien ne sert plus à rien. Et on va remonter ce rien pour voir ce qu'on peut faire en partant de cette fin de millénaire, ce millénarisme enfin réalisé, tout ce que justement les contemporains de Jérôme Bosch voyaient venir est enfin arrivé. Et donc voilà, que va-t-il se passer? Salut Patrice.
Salut Yves.
À toi, peut-être tu veux refaire le pitch ou bien un abstract. J'ai vu ce mot dans ton livre, je l'ai découvert dans ton livre. Un petit abstract du livre, peut-être plus cohérent et plus construit que ce que je viens de dire.
Ben non, mais je peux le compléter. Je peux le compléter en disant que, effectivement, ça se passe comme tu dis, mais les deux héros principaux de mon livre sont de savants, le paléontologue Pierre Teilhard de Chardin, qui était aussi jésuite, et le géologue Vladimir Vernetsky, deux individus dont, curieusement, m'avaient parlé en premier, les Américains, des artistes, je les appelle des savants beatniks dans mon livre, parce que l'Amérique contient le pire et le meilleur, et là c'était plutôt le meilleur. C'était des gens qui voulaient, il y a de cela une bonne trentaine d'années, même plus, c'était réuni il y a une quarantaine d'années, et ils voulaient construire une biosphère bis, biosphère 2. Il prévoyait des voyages dans l'espace, et il disait, dans l'espace, que ça soit sur Mars ou sur une autre planète, il faudra reconstituer une biosphère en miniature où tout est recyclé. Et ces savants qui avaient monté cette utopie réalisée dans le désert d'Arizona. Et moi, je les interviewais pour le magazine Actuel, et puis aussi pour la télé, on avait fait des films, me disaient, mais connaissez-vous Pierre Teilhard de Chardin et connaissez-vous Vladimir Vernadsky? Et je disais non, si, Teilhard, j'avais entendu parler, parce que il a été très connu après sa mort, parce que tant qu'il était vivant, l'Église ne l'a absolument pas autorisé à publier le moindre livre. C'est étrange, quelqu'un qui écrit toute sa vie et qui n'est pas publié. Et donc les Américains me disaient, mais il faut vous intéresser à ces deux êtres. Ils ont vécu au début du XXe siècle, enfin au tournant du XIXe et du XXe, et ils ont dit des choses formidables. Ils ont dit, en particulier, ils ont vu venir le fait que la biosphère qui est quelque chose de prodigieux, la biosphère, c'est-à-dire la vie, l'ADN, tous les êtres qui sont programmés à l'intérieur d'eux-mêmes par l'ADN. Alors, nous faisons partie de la biosphère, mais les mammifères, les plantes, les champignons, même les bactéries qui sont nos premiers ancêtres, ça marche avec de l'ADN. Et ben tout ça, ça a modelé notre planète Terre complètement. Jusque ici, là, on se parle, on est à Paris. Et ben plusieurs kilomètres de roches sous nos pieds ont été littéralement sculptés par la vie. Et puis plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes, l'atmosphère, ça a été complètement fabriqué, façonné, sculpté, dosé par la vie, par ces êtres. Qui marche à l'ADN. Et très récemment, très récemment, il y a à peine 2 millions d'années, mais en fait, même un peu moins que ça, quelques centaines de milliers d'années, est apparu dans cette biosphère un être, c'est nous, les humains, qui sommes devenus en réalité, et de manière très accélérée ces derniers siècles, la force géologique. Nous sommes devenus la force géologique. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, parce qu'à cause du changement climatique, on parle de l'anthropocène. On dit, attention, ce sont les humains qui sont responsables. Et tout le monde le sait, il n'y a plus que quelques imbéciles négationnistes à la façon des manipulateurs, menteurs comme Trump ou Bolsonaro, qui le nie. Nous sommes devenus la force géologique, c'est incroyable. Et cette force géologique, que constitue l'humanité à l'ère de l'Anthropocène, cette force géologique, elle est négative. En effet, comme tu viens de le dire, elle nous pousse vers une sorte d'apocalypse, une sorte de fin du monde, puisque les échéances, on les connaît maintenant. On les connaît, le changement, la chute de la biodiversité, l'élévation du niveau de la mer. Il y a des échéances très très dures qui nous attendent. Le Covid, c'est rien. Enfin, le Covid, ou plutôt, on peut en parler après, mais le Covid, c'est peut-être un petit apéritif qui nous donne un vague aperçu de ce vers quoi nous allons. Et ces deux savants du début du XXe siècle, quelque part, ils le pressentaient. Mais au lieu d'en être déprimés. Ils étaient quelquefois déprimés. Mais ils vivaient dans des circonstances tellement extraordinaires, parce que l'un, le Français tailleur de jardin, il était brancardier dans les tranchées de 14-18, et ça me fascinait beaucoup, le fait qu'il ait été brancardier tout le long de la guerre avec beaucoup de bravoure. Et l'autre, le Russe, il était au milieu de la révolution bolchevique, qui n'était pas exactement tendre ni pacifique. Lui-même étant, on pourrait dire aujourd'hui, on dirait, c'était un bon social-démocrate. C'était un savant social-démocrate. Il croyait à la liberté, à la démocratie. Il était féministe. Lui et toute sa bande, parce qu'il avait une bande. Et ces deux personnages qui vivent dans des circonstances tragique, les tranchées de 14-18, la révolution bolchevique, c'est très 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 violent. Et bien malgré tout, ils ont une vision, et c'est ça que me disent les Américains que je rencontre en Arizona dans les années, au début des années 90, ils me disent, ils ont vu quelque chose de très intéressant, ils ont vu que la logique qui dynamise de l'intérieur la vie, et puis ensuite l'anthropocène, et ben cette logique, elle conduit immanquablement, irrésistiblement vers une conscience collective globale. Alors moi, j'étais resté là-dessus, et puis j'ai commencé à lire un peu, mais c'était difficile de lire le Russe parce qu'il est très 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 peu traduit. Teilhard de Chardin, évidemment, il y a toute une littérature, mais ce qui m'a donné un coup de booster, on dirait aujourd'hui, pour écrire ce livre, c'est effectivement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis tombé sur des jeunes gens d'aujourd'hui complètement désespérés. Alors, à l'époque des punks, on disait « no future ». Alors là, c'est vraiment « no future » au carré, parce que c'est pas un « no future » qui est de rebelles qui veulent casser la société. Non, c'est des gens qui sont poussés à être nihilistes du fait de ces échéances épouvantables qui nous attendent. Et ils se disent « mais à quoi bon ?» À quoi bon ? Effectivement, lui, il dit « à quoi bon travailler ?» Il refuse de... Du coup, sa femme, qui s'est séparée de lui, ne veut pas qu'il voit leur enfant, parce qu'il ne paye même plus de pension alimentaire. Mais voilà, il est désespéré. Et curieusement, et c'est là qu'il y a un premier paradoxe qui va jaillir dans ce que je vis et que je vais ensuite écrire, c'est que, en me demandant, on est avec quelques amis, là, on ne sait pas comment aider cette famille, parce que ça déchire toute la famille. Je lui dis, tiens, ben, il y a quelqu'un que je peux te faire rencontrer. C'est un ami. C'est un collapsologue. Il s'appelle Pablo Servigne. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années. Et est-ce que tu aimerais le rencontrer? Et alors, curieusement, là, ça a éveillé une envie, un désir chez ce garçon très déprimé, que j'appelle Sacha dans le livre. Bon, bah, je quand même, j'ai un petit peu maquillé, mais c'est lui. Il a envie de rencontrer Pablo Servigne parce qu'il avait lu. Il était en train de lire le troisième, mais il avait lu en particulier Comment tout peut s'effondrer, je crois que c'est le premier. Livre collapsologue. Après, il avait lu surtout celui-là, je dois dire. Parce qu'il était en train de lire les deux autres qui s'appellent L'entraide et l'autre, Une autre fin du monde est possible. Et alors là, j'arrive à le dynamiser et je l'emmène dans la Drôme. Je l'emmène dans la Drôme pour rencontrer Pablo qui a choisi, avec sa femme médecin et leurs deux petits garçons, ils ont décidé de vivre sous une yourte. Et paradoxalement, donc... Ce chef de file des collapsologues essaye de lui remonter le moral en disant « Oui, nous allons vers des échéances très dures et c'est devenu à peu près impossible de prétendre, comme on le fait depuis des décennies, de dire « On a encore 10 ans pour changer de modèle ». Non, non, c'est fini. Ça, on l'a dit 5-6 fois de suite pendant 50 ans. Là, non, on ne peut plus changer de modèle. Donc, on va vers des... C'est peu dire qu'on va se prendre le mur dans la tronche ou qu'on va sortir des rails. Ça va dérailler et le propos, ça n'est pas de le nier, mais d'essayer d'être... Et moi, à ce moment-là, les références qui me viennent, elles viennent de Viktor Frankl, elles viennent de Primo Levi, de gens qui se sont dit comment rester être humain alors qu'ils étaient dans les camps de concentration. Il y a des gens qui ont vécu ça, il y a des gens qui ont traversé un autre genre d'horreur, mais enfin quand même une horreur intégrale, où la civilisation elle-même s'effondrait, et qui ont dit « je resterai humain ». Enfin, on pourrait « je resterai humain quoi qu'il arrive ». Et en gros, les collapsologues, c'est ça qu'ils disent, c'est comment rester humain. Il ne s'agit pas du tout de baisser les bras, il ne s'agit pas, même pas d'arrêter de faire des enfants. Et quelque part, ça parle à mon ami Sacha, parce que lui-même, il a fait un enfant à une femme qui était elle-même désespérée, rebelle. Et ils ont fait un enfant un peu, peut-être sans y réfléchir. Et puis là, non, il se dit, non, tu as raison, il faut rester vivant. On baisse pas les bras face aux catastrophes qui arrivent, aux catastrophes que lui attribue en grande partie au capitalisme. Pour lui, l'anthropocène, c'est surtout un capitalocène. Mais Peu importe la cause, ça reste à discuter, mais enfin, en tout cas, les échéances dures, on va se les payer. Et donc, oui, restons humains face à ces échéances dures. Restons humains. Et alors là, pour moi, commence tout d'un coup une envie de lui raconter à lui et du coup aussi à sa femme qui va se rapprocher de nous, même si elle est en colère contre lui, à sa femme, au nouveau mec de sa femme aussi, un garçon qui s'appelle Arthur, elle s'appelle Myriam, et je vais leur raconter ce que je suis en train de lire et de découvrir en lisant Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, qui, lorsqu'ils se sont rencontrés en 1924-1925, à Paris, l'un sortant donc en gros des tranchées de 14 et enseignant la géologie, la paléontologie, l'autre arrivant de Russie, ont des conversations entre eux, dont sort cette idée de noosphère. De noosphère, voilà. Qu'est-ce que c'est que la noosphère ? Ils en parlent. Ensuite, l'autre, il va retourner en Russie. Le français, il va aller surtout en Chine, parce que l'Église ne veut pas de lui et elle expédie en Chine, où à l'époque, on pense qu'on va retrouver les traces du... À l'époque, on pensait que c'était en Chine qu'on allait trouver les traces du premier humain. Les premiers humains ont... On pensait pas que c'était en Afrique, même si pourtant Darwin l'avait dit. Darwin avait dit c'est en Afrique qu'on trouvera. Enfin bon, donc ils vont se séparer, mais chacun avec cette notion de cette idée folle, on pourrait dire utopique, et pourtant quand on y réfléchit, on peut en parler après peut-être, fondée, une idée fondée, cette idée de noosphère, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien une conscience collective des humains. Et cette conscience collective, elle doit muter, elle doit connaître une sorte de bond. Alors aujourd'hui, on dirait, parce que c'est très à la mode de parler du quantique, un saut quantique. Mais moi, j'ai tendance à être un petit peu ironique vis-à-vis de l'usage du mot quantique tout le temps, partout, par des gens qui peut-être. Enfin bon, bref, peu importe. Cette conscience collective de l'humanité à l'échelle planétaire. Il faut absolument c'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais elle est un peu faible. Il faut qu'elle se renforce, qu'elle se muscle, et voilà. Alors donc, j'en parle avec Sacha, avec Myriam, avec Arthur, avec ces jeunes d'aujourd'hui, et nous en discutons. Et voilà. Et ça fait la matière du livre, qui est un aller-retour entre ces années. Du début du XXe siècle, ces années très brutales aussi, où on commence à réfléchir à tout ça, et aujourd'hui, on a, voilà.
Si tu veux, on va écouter un morceau de musique, si tu veux bien.
Try. No hell.
en fait, ce que tu as, tu as deux penseurs, hein, qui est jésuite. On n'a pas le temps là, mais on devrait expliquer aux jeunes générations ce que c'était d'être jésuite. Mais enfin, on devrait expliquer aussi ce qu'était l'Église catholique, etc., etc. Mais les jésuites sont des gens très spéciaux à l'intérieur de l'Église catholique. Mais peu importe. Mais il y en a un qui vit l'effondrement de l'Europe. Enfin, ça a toujours été mon avis. La guerre 14-18, c'est la fin de l'Europe. C'est l'arrivée des pays avec une forte population, c'est-à-dire l'URSS et les États-Unis, donc le leadership de l'Europe, c'est-à-dire des pays coloniaux, finit avec 14-18. Comment ce savant paléontologue jésuite va-t-il réagir à cet effondrement? Et il y a assisté dans son cœur même, c'est-à-dire dans cette absurdité qu'était Verdun et des choses comme ça. Et l'autre assiste à l'effondrement de la féodalité russe, qui avait beaucoup de retard, qui avait des serfs encore il n'y a pas très longtemps. J'entendais sur France Musique une émission sur Rachmaninov, par exemple, et Rachmaninov était un riche propriétaire terrien, qui s'était très investi dans sa propriété, et qui achetait les choses les plus d'avant-garde. Il avait acheté, on parle de 17, hein, exactement 1917, il a acheté un tracteur américain. En 1917, et il va moderniser sa propriété. Et en février 17, il y a la révolution. Et c'est fini pour Rachmaninov. Il tient encore 6 mois, puis après, il doit s'exiler et il ne retournera jamais en URSS. Donc, on a deux personnes, deux savants. Hein, l'autre est... c'est pas chimiste qu'il est, c'est biologiste. Géochimiste, ah, c'est ça. Vernadsky. Ouais. Et biochimiste, on a deux savants qui ont assisté chacun. C'est aussi un énorme choc, évidemment, la prise du pouvoir par les bolcheviks. Dans un pays qui est très contrasté, qui est pas unifié comme l'Europe au niveau économique, mais qui offre des contrastes très très puissants. Donc on a deux fins du monde, vraiment deux fins du monde dans le sens du millénarisme, mais c'est un monde. C'est-à-dire que c'est soit l'Europe, c'est la Russie. Et toi, tu transposes ça à la fin du monde. Le monde. Et tu fais l'inventaire, c'est assez réussi, tu as énormément de noms propres dans ton livre, ça n'est jamais indigeste, énormément de titres de livres, c'est ta longue expérience actuelle qui fait que tu écris de façon très fluide. Et je prends un exemple au hasard, Printemps silencieux, un livre de Rachel Carson qui date de 1962 sur l'extinction animale. Donc on a énormément de choses comme ça. Ben on peut penser au niveau de l'écologie à René Dumont, par exemple, en Afrique. On a énormément de choses comme ça qui sont des avertissements qui ne font pas sens, qui ne prennent pas, ça ne prend pas. Et maintenant, on est vraiment dos au mur et ça ne prend toujours pas. Et donc c'est ce que tu vas développer, c'est ce que tu vas, avec ce jeune homme, tu vas faire le tour des façons dont ça ne prend pas. À part ton collapsologue qui lui a un fort écho et qui prend pour le meilleur et pour le pire, quoi, qui est déjà lui en train d'organiser la survie, qui mange de la spiruline, c'est ça?
Il est voisin de quelqu'un chez qui on va dormir et qui cultive la spiruline.
C'est une algue.
Cette algue microscopique qui pousse sur les plans d'eau, les mares tropicales. Et qui contient énormément d'éléments nutritifs, au point que la légende raconte que, en fait, la manne qui a nourri les Hébreux dans le désert du Sinaï où ils ont erré pendant 40 ans dans la Bible, ça serait, cette manne, ça serait de la spiruline. Et donc, oui.
Il y a eu toutes ces alertes déjà.
Il y a eu toutes sortes d'alertes. Alors quelqu'un qui s'appelle Pascal Bruckner ironise dans un procès spectacle qui avait été organisé par la revue Ouzbek Erika et où on jugeait Pablo Servigne qui s'y prêtait volontiers. Il était accusé d'obscurantisme, de défaitisme et de sectarisme. Et Bruckner était un des procureurs et qui disait « Mais la fin du monde, il y a eu tant de fins du monde annoncées qui ne se sont jamais produites. » Et donc, bien entendu, tout ceci est quand même à dédramatiser. Moi, je dirais que ce que aujourd'hui Ce qui devient aujourd'hui évident, c'est que c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde, c'est même pas la fin de la vie. De cela, les savants beatniks dont je parlais tout à l'heure m'avaient convaincu il y a une trentaine d'années quand ils me disaient les écologistes ont tendance à dire attention, la vie est très fragile. Mais la vie en soi, la vie, tu sais que pendant 2 milliards d'années sur cette planète, la vie c'était uniquement des bactéries très inventives, c'est formidable les bactéries. Il faut absolument lire les livres de Lynn Margulis en particulier sur l'univers bactériel. Il y a pas plus, c'est très imaginatif et très résistant les bactéries. Même si on faisait sauter toutes les bombes atomiques que nous avons sur cette planète, eh bien, nous ne viendrions pas au bout de la vie. La vie se moque de nous, mais à une échelle qui peut être assez primaire. Ce qui est menacé aujourd'hui, c'est les vies, les formes sophistiquées de vie. Nous sommes une forme très, très, très sophistiquée. Nous sommes prodigieux, nos atomes viennent des étoiles géantes éclatées, nous sommes de la poussière d'étoiles, c'est organisé sous la forme d'une spirale d'ADN très puissante, très 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 puissante, puisque comme je le disais aussi tout à l'heure, quand l'ADN s'est emparé de cette planète, parce que les conditions étaient bonnes, on a de la chance, les conditions étaient bonnes, et quand l'ADN s'est emparé de cette planète, ben elle ne l'a plus lâchée et elle ne la lâchera pas. Et l'humain n'est jamais qu'un nain face à l'ADN. Mais l'humain peut sérieusement abîmer l'arbre dans ses dernières floraisons et il fait partie de ces floraisons. Et donc là, il y a un côté. Alors comment croire qu'il y a un horizon possible pour cette forme de vie très sophistiquée qui s'appelle l'humanité. Alors, on peut écouter quelqu'un comme Edgar Morin, par exemple. Je l'évoque un petit peu une ou deux fois. Edgar Morin, qui a l'habitude de dire que l'imprévisible est toujours là. Les choses sont imprévisibles. L'évolution la plus matérielle, l'évolution telle que l'a définie Darwin après bien d'autres, elle fait des sauts complètement imprévisibles qui obéissent plutôt aux lois du chaos, de l'ordre qui jaillit du désordre. Et donc on peut dire bon bah il va y avoir quelque chose d'imprévisible, mais c'est quand même un pari très risqué d'une certaine façon. Aujourd'hui, les gens qui sont des transhumanistes, par exemple, des gens qui croient à fond à la technologie en disant « mais on s'en sortira parce que la technologie sera plus forte » et qui imaginent des solutions de géo-ingénierie, n'est-ce pas, de balancer de la chimie à haute dose dans la haute atmosphère, de la balancer de la chimie dans la mer, dans les océans, et vous verrez, l'imprévisible se produira, c'est-à-dire que nous en sauvera. Ça fait partie des données à prendre en compte, mais c'est quand même pas très crédible. En revanche, ce qu'il y a de vrai et que disent les collapsologues comme Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens, qui converge complètement avec la pensée de Teilhard de Chardin et celle de Vladimir Vernadsky, c'est que nous, humains, et aujourd'hui, humains qui essayons d'être lucides, nous battons la coulpe très fortement. Nous critiquons les systèmes de pouvoir qui nous dirigent, et nous battons notre coulpe en disant « c'est notre faute, nous sommes très vilains, très méchants, très agressifs ». Et on peut aller jusqu'à ce que disait Yves Pacalet, c'était la plume de Jacques Cousteau, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humanité disparaîtra, bon débarras, bon débarras ». Ce que disent les personnages que j'ai cités jusque-là, ils disent « attention, l'être humain, et c'est comme ça, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, l'être humain est un être extrêmement coopératif. Très coopératif. Nous sommes, la vie en général est faite de coopération, ça c'est sûr, et quand les nazis, pardon de tout de suite utiliser le point Goodwin, mais quand les nazis disent bah, « nous appliquons la loi de la jungle », pas du tout, pas du tout, ils ne connaissent pas la loi de la jungle. Ce que Gauthier Chapelle explique très très bien, c'est que si on prend toutes les interactions qu'il y a entre les entités vivantes, les êtres vivants d'une jungle, l'agression pure et simple, c'est à peu près 15% des interactions. 85% des autres interactions sont de coopération, de symbiose, éventuellement de parasitage, mais ou de commensalisme. Ce qui est commensalisme, c'est un autre être profite de moi, mais ça me fait pas de mal. Ça, c'est du commensalisme. Le parasitage peut faire un peu de mal, mais 85% des interactions du vivant sont plutôt d'ordre coopératif que d'ordre agressif et compétitif. C'est pour ça aussi que le modèle économique dans lequel nous grandissons aujourd'hui est totalement faux, puisque il prétend mettre la compétition au cœur de la logique qui devrait nous gérer. Mais si le vivant est déjà très coopératif en soi. Les livres merveilleux qu'écrit Peter Wohlleben sur une forêt, qu'est-ce que c'est qu'une forêt ? C'est très, très coopératif. Mais l'être humain, beaucoup plus. Pour une raison très, très simple, c'est que, comme nous le savons tous, nous naissons, quand un bébé naît au bout de 9 mois de gestation, il est très, très, très prématuré. Un être humain, ça... Alors dans les zones très difficiles, un être humain, il commence à pouvoir survivre peut-être à 8-9 ans, il va se démerder. Dans nos contrées riches, il faut attendre beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que nous sommes des êtres culturels, parce que nous sommes imprégnés complètement dans notre formation physiologique même. Nous sommes des êtres littéralement fabriqué par la culture et la solidarité. Et donc, on pourrait dire que la tragédie, moi je ne suis pas d'accord avec les grands penseurs de l'absurde qui disent la tragédie humaine, c'est que l'humain, il est lucide et donc il est conscient que l'univers n'a pas de sens. Et moi, je ne comprends pas qu'on raisonne comme ça, parce que la science elle-même nous montre des choses absolument admirables dans le cosmos, absolument admirables, et notre planète est absolument admirable, et le fait que nous soyons là, c'est complètement admirable. Simplement, la tragédie, moi je la transpose ailleurs, c'est que l'évolution, les sauts en avant en particulier, si on parle de noosphère, le saut en avant que constitue... une maturation collective de la conscience, eh ben, elle ne s'effectue que sous la pression d'un marteau pilon. Et ça, c'est très, très dur à avaler. Et évidemment, Teilhard, il voit le marteau pilon, c'est un marteau pilon effroyable, ça s'appelle la guerre de 14-18. Et l'autre, le russe, il voit le marteau pilon qu'est la révolution bolchevique. Mais toutes les révolutions sont ultra violente et alors donc nous autres, alors moi j'ai eu 20 ans en 68, donc nous on disait peace and love, on disait le désir, il est interdit d'interdire et puis c'est le désir qui doit tout gouverner et je suis toujours d'accord avec ces slogans, sauf que je suis bien obligé de remarquer que le désir seul ne suffit pas à faire muter l'humanité et que bien souvent elle ne mute que parce qu'elle est comprimée dans quelque chose de très violent. Alors Teilhard, il dit, oui, c'est là, il voit ça sur le front, il parle de la plage rouge de l'évolution, la plage rouge, et il dit, c'est terrible, c'est un accouchement. Voilà, c'est un accouchement, et c'est un accouchement pas soft, c'est pas un accouchement sans douleur, c'est un accouchement avec grosse douleur, mais ça mute. Ça mute, et les prospectivistes le disent de façon assez unanime, souvent, les belles grandes idées utopiques que l'humanité produit restent utopiques avant une épreuve. Avant une épreuve. L'idée, par exemple, d'une organisation mondiale, d'un dialogue qui s'appellerait l'Organisation des Nations Unies, l'idée d'ONU, c'est déjà là un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais il faut la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs pour que, en 44, 45, 46, 47, qui sont des très belles années, les éclaircies sont courtes. Après, on rentre dans la guerre froide, mais il y a des choses magnifiques qui naissent après la Seconde Guerre mondiale. Et l'UNESCO, le dialogue entre tous les savants, parce que mes savants, et là, de ce point de vue-là, même Vernadsky, par exemple, s'oppose à un grand ami de sa famille qui s'appelait Tolstoï, Léon Tolstoï. Tolstoï avait des utopies, mais il ne croyait pas dans la science. Il ne croyait pas. Alors que Vernadsky était théard, et je crois pouvoir dire aujourd'hui les collapsologues, il croit à la raison, d'une certaine façon, à une grande raison, avec un grand R. On pourra ensuite essayer de décortiquer peut-être qu'est-ce que ça signifie, cette grande raison avec un grand R, mais qui doit nourrir la recherche scientifique, qui doit nourrir le dialogue. La responsabilité des savants, des scientifiques, est immense, évidemment. Mais il doit y avoir un dialogue entre les savants du monde entier. Alors aujourd'hui, j'ai toutes sortes d'amis, y compris dans ma famille, qui me riraient au nez là, en disant les savants, ils sont tous pourris, ils sont les serviteurs de Big Pharma, et de là, on voit bien avec le Covid à quel point tout ceci est... Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
On pourrait peut-être... je repense à Patrick Thor, par exemple, avec lequel c'est un spécialiste de Darwin que j'ai interviewé une ou deux fois.
Et oui, qui retraduit tout Darwin, d'ailleurs.
Et oui, et donc son idée de Darwin, donc pour les gens, Darwin, c'est très dur, c'est la sélection naturelle. Et ce que défend Patrick, c'est le fait que Darwin travaille sur la sympathie humaine. C'est-à-dire qu'il y a la sélection naturelle, mais le fait même d'être humain va développer la société, et la société va protéger ses membres. Alors il faut bien s'entendre, quel que soit le système, il protège. C'est ce que tu fais en faisant un raccourci historique sur l'atténuation de la violence. Et bon, tu le mets dans ta propre expérience, c'est-à-dire en Occident, et tu dis, par exemple, une femme qui aujourd'hui irait à pied de Toulouse à Paris pourrait le faire sans être tuée, sans être violée, etc., ce qui était impossible avant. Elle ne pouvait pas quasiment sortir de sa maison. Il y a encore des situations comme ça, d'ailleurs, dans le monde, ça existe. Et donc aussi, donc il faut bien voir... Bon, la noosphère, elle est finaliste, en fait. Elle pense, si j'ai bien compris, que tout a un but et que c'est le but qui justifie l'existence. Hein. Et l'homme est l'évolution devenue consciente d'elle-même. C'est ça, donc, le lot de consolation à ce monde qui va mourir, c'est de lui dire qu'il est devenu conscient de lui-même et que sa part de positivité, sa part progressiste, elle n'est pas consciente, mais elle est plus forte que lui-même, qu'elle a lieu quand même. Même si ses rapports ont l'air extrêmement violents, néanmoins, si on arrive à mettre tout à plat, c'est moins violent et plus dans la sauvegarde qu'on ne l'imagine. Suffit de penser qu'il y ait n'importe lequel de ces signaux alarmants. Enfin, ça arrive tous les jours d'ailleurs. On nous balance des signaux alarmants. Il y a des gens qui réagissent à ces signaux alarmants. Et chaque fois qu'il y a une petite solution qui se fait jour, la grande solution se fait jour à travers cette petite solution. C'est-à-dire qu'on voit la porte, qu'on voit la sortie, qu'on voit la possibilité, la potentialité d'une solution. À part ça, bon, le finalisme, ça vaut ce que ça vaut, c'est de l'ordre de la croyance, et donc là, on est dans le domaine de la croyance. À toi de jouer.
Alors, il y a deux choses que tu soulèves, là, il y a l'histoire de la violence et l'histoire du finalisme. Alors, la violence, c'est vrai que moi, je suis très influencé par des penseurs comme Steven Pinker, là, qui vient de sortir un nouveau livre sur la rationalité. Mais avant ça, il a sorti plusieurs études énormes, considérables, très impressionnantes, parce que très nourries d'énormément de faits historiques et préhistoriques, et qui convergent avec par exemple, Robert Münchenbled en France a écrit une histoire de la violence, ou le Suédois Hans Rosling a fait aussi beaucoup d'études sur l'évolution de la violence, lui, simplement sur 2 siècles, alors que chez Pinker, ça s'étale littéralement sur des millénaires, parce que, et ça c'est très impressionnant, comment est-ce qu'on arrive à savoir comment se comportaient nos ancêtres paléolithiques? Il y a des études, il y a des recherches, il faut saluer ces recherches. Le pitch, ça serait en gros, quand tu nais, au moment de ta naissance, quel est le risque que tu cours que la fin de ta vie soit décidée volontairement par quelqu'un qui va t'assassiner? Ce risque, il va en diminuant de manière complètement remarquable et impressionnante. Et j'en parle avec mon ami Sacha, qui me dit « Arrête, tu vas pas me dire que, par exemple, tu vas pas me dire que le 20e siècle a été moins violent que le 19e. » Eh bien si, ça paraît fou, mais les chiffres sont flagrants, sont absolument flagrants, aussi parce qu'on est beaucoup plus nombreux. On est beaucoup plus nombreux, mais le risque qu'un humain... Alors, malgré le fait qu'au XXe siècle, il y a quand même eu deux guerres mondiales, plusieurs Shoah, plusieurs goulags, la Shoah, des guerres coloniales épouvantables, eh bien, le risque qu'un humain moyen, hein, c'est des statistiques, qu'un humain moyen soit volontairement flingué par un autre, flingué ou assassiné ou tordu, ce risque, c'est une courbe qui chute. Alors les gens ne le croient pas. Moi j'avais publié des articles là-dessus et les gens me disaient quand même « Qu'est-ce que vous déconnez vous autres les journalistes ?» Parce que les gens...
T'as une image au niveau de notre propre existence, c'est les bandes de voyous par exemple. Alors c'est très facile à comprendre. Et donc il y a ce phénomène des bandes, là, donc toujours c'est l'actualité, oui. En banlieue.
Oui.
Et ça s'est apaisé, c'est devenu beaucoup moins violent, les tournantes, les violences, et tout ce qu'on peut imaginer, oui. Même au niveau de notre propre existence,
oui, mais tu es d'accord
se sont pacifiés.
Que dans l'opinion est persuadée du contraire.
Du contraire. Elle pense que ça va en s'aggravant tout
on
le temps.
On est de plus en plus violent.
Enfin, c'est ce que font les médias.
Bien sûr. C'est une boucle.
Il y a une manipulation.
C'est pour ça, là, on parle beaucoup en ce moment de Facebook. Là, il y a cette lanceuse d'alerte, la Frances, parce que effectivement, on le sait. Ça, moi, il y avait un politologue très intéressant qui s'appelle Benjamin Barber, qui déjà il y a 20 ans, dès le début d'Internet, disait la logique même des algorithmes va accentuer les extrêmes et la violence. Bon, en réalité, donc ça c'est un premier point. C'est un fait que volontairement nous sommes de moins en moins violents, contrairement à ce que croit l'opinion.
Alors, il te reste un quart d'heure, donc je suis en train de parler avec Patrice Van Hersel de Noosphère, qui vient de paraître chez Albin Michel. On est sur Aligre FM, dans La vie est un roman. Il y a la question du finalisme. Alors, qu'est-ce que tu réponds à...
Finalisme...
Comment c'est ton livre? Comment la Noosphère s'articule avec le finalisme?
Voilà, alors, essayons d'être bref. Vernadsky comme Teilhard de Chardin sont très très bergsoniens. Ils aiment Bergson, ils lisent Bergson, et ce qu'ils ont en commun avec lui, c'est qu'ils disent mais l'évolution, elle est création, mais création pure. Et Teilhard le prend et il essaie d'intégrer ça dans le corpus chrétien en disant donc il y a une espèce de hiatus ou une danse un peu acrobatique entre le fait que, bien sûr, on pourrait dire que pour un chrétien naïf, Dieu a tout prévu, et donc on se dirige, n'est-ce pas, on va le rejoindre, l'humanité, la création va rejoindre son créateur, et tout ça est tout à fait programmé. Mais lui, en tant que darwinien, c'était audacieux pour un catholique du début du XXe siècle d'être clairement darwinien, mais il essaye de le dépasser. Mais il est darwinien en disant il y a création pure, et donc les formes que prennent les cultures humaines, elles sont indéterminées. Elles sont déterminées par les humains. Et ça va, on pourrait dire, dans un certain sens, c'est de l'ordre du hasard et de la nécessité de Monod et Jacob. Mais en même temps, ce qu'il ne peut pas s'empêcher de voir avec Bergson, c'est que la conscience, elle s'infiltre partout où elle peut. La conscience, qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que la conscience ? Aujourd'hui, on dit, mais une forêt, c'est conscient. Les plantes sont conscientes, les animaux sont conscients. Jean-Marie Pelt, avec qui j'en parlais peu de temps avant sa mort, Jean-Marie Pelt, le botaniste fameux de la ville de Metz, me disait, et cette conscience, elle est inséparable, au fond, de l'empathie. Elle est inséparable. Il n'y a pas de conscience, et si on le pousse au bout pour nous humains, il n'y a pas de conscience stable et forte sans amour. Sans amour. Et donc là, effectivement, là, on rippe. Et Pelt, à qui je disais, pour le provoquer, je disais, alors tu vas peut-être me dire que la Terre tourne autour du Soleil par amour. Et il me disait, alors j'interdirais à un de mes étudiants de le dire, parce que ça n'est pas scientifique, mais c'est beaucoup plus vaste qu'un scientifique. La science, c'est une servante, nous n'avons pas à être dirigés par la science. Par contre, la poésie, la spiritualité, ça c'est beaucoup plus vaste que nous, et c'est nous qui nous inclinons devant. Et alors, à ce stade-là, au stade de la poésie et de la spiritualité, alors oui, je peux dire que la Terre tourne autour du soleil par amour. Et évidemment, je comprends très bien qu'on puisse à ce moment-là hausser les épaules, mais quelque part, ça va de pair avec cette idée que nous sommes, que nous avons à nous appuyer sur cette profond instinct de solidarité qui est inscrit en nous, d'entraide et de solidarité qui est en nous. Je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers avec la notion de neurones miroirs, qui sont des découvertes relativement récentes, ça date des années 90, sur la façon dont notre cerveau est construit. Le cerveau des humains, comme celui de certains grands mammifères, mais surtout chez les humains, ce cerveau qui se construit après notre naissance en grande partie, il est empathique. Si tu te coupes le doigt là devant moi, je vais avoir mal. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Et c'est inscrit, c'est pas simplement une vue de l'esprit. Non, ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même parce que c'est inscrit dans la façon dont mes réseaux de neurones se construisent.
Tu écris par la voie du calcul appuyant ses intuitions, Vladimir Verdansky a su démontrer que l'humanité était devenue l'agent de la transformation numéro un de l'écorce céleste et de l'atmosphère.
Oui.
Pour revenir au livre.
Ça, c'est l'Anthropocène.
C'est l'Anthropocène, oui.
Ça, c'est l'Anthropocène.
Et donc, ce livre parle de ça. Donc, c'est un livre qui parle de que faire avec ce que l'humanité a fait de la Terre. Et donc la solution, ce serait de prendre soin, en fait. On retourne sur cette expérience de la mort, là. C'est une solution un peu désespérée, mais il n'y a plus que ça.
C'est-à-dire, le mur qui nous sépare, d'une certaine façon, de la solution, il est en partie dû à notre peur de mourir. La peur de la mort constitue un obstacle terrible. Quelque part, les fanatiques, toutes sortes de fanatiques dont on voit se déployer les méfaits de nos jours comme de tout temps, le fanatique n'a pas peur de mourir. Mais ça l'entraîne dans une obscurité. Alors qu'il y a des comportements collectifs qui peuvent nous libérer de la peur de mourir de façon non pas obscure, mais lumineuse. Lumineuse. Et Bon, alors ça, ça serait peut-être trop long à développer, mais Teilhard de Chardin, il disait quelque part la montée en complexité, la montée en complexité, par exemple, de nos sciences, de nos technologies, de notre monde, s'accompagne forcément d'un approfondissement de la conscience. Et moi, j'en vois un exemple, mais qui sera peut-être considéré comme téméraire ou trop audacieux, c'est que il y a une chose que j'ai étudiée, comme tu le disais au début de notre émission, que j'ai étudiée il y a de cela maintenant
40 ans.
Oui, 40 ans, c'est que il y a un phénomène tout à fait nouveau, qui est un phénomène, un progrès de nos technologies médicales, c'est qu'on ranime des gens. On ranime des gens. Dans aucune autre société, même dans la société chinoise très sophistiquée, ou égyptienne, ou indienne, ou toutes les grandes civilisations autres que la nôtre, n'ont pas abouti à des technologies de réanimation. Alors, avec le Covid, on voit bien, on ranime des gens tous les jours, mais même sans ça, ça fait des décennies qu'on ranime tous les jours des gens qui, dans toute autre culture, seraient mortes. On les ramène, et parmi elles, un pourcentage qu'on peut grosso modo estimer à 20%, raconte cette histoire que tu as dit au début et qui te fait penser à Gustave Doré ou à Jérôme Bosch. C'est-à-dire que elles ont eu l'impression au moment où leur cœur était arrêté, par exemple, avant qu'on les ranime, elles ont eu l'impression de connaître quelque chose de fantastique qu'on pourrait résumer dans deux mots, amour et connaissance. Ils ont su des choses qu'ils ont d'ailleurs généralement oublié, mais ils étaient persuadés, et ils ont baigné dans quelque chose qui leur a fait comprendre ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même.
On va bientôt terminer, donc la société, alors elle est décrite, c'est une société occidentale qui est décrite dans ton livre, elle est hyper narcissique, hein, donc c'est son grand défaut, elle fabrique du narcissisme, elle s'auto-nourrit d'un narcissisme infantile, et la solution est évidemment le care, hein, donc là on est...
Le
prendre soin. Oui. Et donc c'est à peu près ça, mais je voudrais rendre justice au livre, il y a un effet d'inventaire, si ça vous intéresse, vous allez voir, sont mentionnés à peu près tout ce qui a fait alerte, tout ce qui a fait sens sur cette question ces 50 dernières années, enfin non, plus largement, puisqu'on démarre avec 14-18 et 1917, donc on est dans une... C'est aussi une récapitulation de cette problématique, hein, ton livre, La Noosphère, tu es d'accord ?
Oui, je suis d'accord, on a...
D'accord.
Mon éditrice m'a fait couper beaucoup, parce que c'était... Elle me disait, mais tu ne peux pas raconter l'histoire du monde, et il faudrait sans doute en couper encore un peu. Mais effectivement, quand on tire sur ce fil, on se retrouve avec des grappes entières d'histoires, d'itinéraires, de personnages et de problématiques qui mériteraient d'être discutées. Il faudrait... créer un séminaire et en discuter avec moi, je pourrais en être le modérateur, mais pas parce que moi je ne suis jamais qu'un journaliste.
Bon, bah écoute, merci. On sera à Ligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Nous avons parlé de Noosphère de Patrick Van Herselt, qui est publié chez Albin Michel. Nous allons écouter encore un morceau de musique, et je vous annonce avant que l'émission suivante sera à la croisée des chemins de Manouchka Toubiana. Merci de nous avoir écoutés. Nous écoutons un morceau de musique.
Choses donne envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul nous solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur. Du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval. Sentimental, on a soif d'idéal.